VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 26 juillet 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
L'ONU se dit très inquiète de la situation des droits humains dans les deux régions anglophones et l'extrême nord du Cameroun.
L'Union européenne va financer un nouveau QG pour la force du G5 Sahel.
L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo demande à la CPI de l'acquitter de tout crime contre l'humanité.
Signature d'un accord préliminaire sur le partage du pouvoir au Soudan du Sud entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar.
Report à 2019 du deuxième sommet que le président Donald Trump voulait avoir cet automne à Washington avec Vladimir Poutine, son homologue russe.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Zeid Raad al-Hussein, responsable des droits de l'homme aux Nations Unies, se dit très préoccupé par les rapports sur les violations des droits de l'homme dans les deux régions anglophones du Cameroun et dans l'extrême nord du pays. Ces deux régions anglophones sont en proie à un conflit entre séparatistes et forces gouvernementales, tandis que le groupe djihadiste nigérian Boko Haram sévit dans l'extrême nord.
Dans un communiqué, l'ONU a demandé à Yaoundé de lancer des enquêtes indépendantes sur les violations imputées aux forces de sécurité de l'État, ainsi que sur les abus perpétrés par les éléments armés. Monsieur Zaïd s'est dit par ailleurs concerné par une vidéo montrant des membres présumés de l'armée exécuter sommairement deux femmes et leurs deux enfants accusés d'être des djihadistes de Boko Haram. Le représentant onusien craint que ces meurtres ne soient pas des cas isolés dans l'extrême nord.
En République démocratique du Congo, le parti de l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba a sollicité les autorités congolaises pour sa sécurité et l'organisation de son retour au pays le 1er août, a déclaré hier sa secrétaire général Eve Bazaïba. Elle dit vouloir éviter les accusations de recours à des mercenaires ou des milices. Monsieur Bemba est candidat à la présidentielle de décembre prochain, condamné en 2016 à 18 ans de prison pour des exactions commises par sa milice en Centrafrique. Au début des années 2000, il a été acquitté en appel le mois dernier par la CPI.
De son côté, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a exhorté les juges de la CPI à prononcer son acquittement et à le libérer de prison, argumentant que le procureur n'a pas été en mesure de prouver les accusations de crimes contre l'humanité. Dans une requête envoyée lundi à la Cour pénale internationale, les avocats de la défense ont estimé que M. Gbagbo devrait être acquitté de toutes les charges retenues contre lui suite aux violences post-électorales qui ont déchiré la Côte d'Ivoire en 2010-2011.
L'Union européenne a décidé de financer la construction d'un nouveau quartier général pour la force conjointe du G5 Sahel à Sévaré au Mali, a annoncé mercredi la chef de la diplomatie européenne. Le point avec Ekia Badou.
L'ancien QG de cette force multinationale avait été détruit lors d'une attaque djihadiste fin juin qui avait fait 3 morts. Lancée en 2017, la force conjointe rassemble 5000 hommes répartis en 7 bataillons, 2 pour le Mali, le Niger et 1 pour le Tchad. Le Burkina Faso et la Mauritanie restent chacun sous leur uniforme national. Les 414 millions d'euros promis à la force lors d'une conférence internationale des donateurs organisée à Bruxelles le 23 février tardent à se matérialiser. Néanmoins, la force conjointe du G5 Sahel entend bien garantir la sécurité, le développement de la région, qui est également un investissement dans notre sécurité, a dit Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne. La reconstitution du quartier général de Sévaré confirme l'engagement déterminé de l'Europe aux côtés des pays du G5 pour permettre aux institutions de contrôler pleinement leur territoire et de lutter contre le terrorisme et les trafics d'êtres humains, d'armes et de drogue, a expliqué Madame Mogherini. L'Union européenne a accordé un soutien financier de 100 millions d'euros à la force conjointe G5 Sahel.
Au Niger, les activistes de la société civile condamnés hier à une peine de 3 mois de prison avec sursis pour provocation d'attroupements non armés lors des manifestations de protestation contre la loi des finances 2018 ont quitté leur lieu de détention. Tous se disent résolus à continuer la lutte. Au micro d'Abdulrazak Idrissa, notre correspondant à Niamey, Écoutons Ali Idrissa, un de ses activistes.
C'est sûr que nous n'allions pas nous arrêter à ce niveau. Et la lutte ne fait que commencer. D'abord, par rapport à ce qu'on dénonçait, ce pourquoi ils nous ont arrêtés, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance, le népotisme, et qui est allé plus loin aujourd'hui. Le monsieur n'a même plus confiance en son entourage. Il prend son fils pour mettre dans les affaires de l'État. C'est tout ça là que nous allons redoubler d'efforts pour combattre. Nous n'allons ni faiblir, ni cesser. Nous avions même laissé une partie de nos affaires en prison pour y retourner quand ils veulent, selon leur agenda de règlement de compte.
L'activiste de la société civile nigérienne, Ali Idrissa.
Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud ont signé hier à Khartoum un accord préliminaire sur le partage du pouvoir. Les précisions d'Irénée Hermanoumbou.
Selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, le document signé porte sur toutes les questions relatives à la période de transition et sur le partage du pouvoir. Salva Kiir restera le président du Soudan du Sud et Riek Machar sera le vice-président. Il y aura 4 autres vice-présidents répartis parmi les autres groupes politiques. Le diplomate soudanais a indiqué que la question de partage du pouvoir au niveau des régions et des départements est encore en discussion. Selon le texte adopté, le gouvernement de transition sera composé de 35 ministres, 20 du groupe de Salva Kiir et 9 de celui de Riek Machar. Le reste représentant les autres groupes. Le Parlement comptera 550 députés, dont 332 du groupe de Salva Kiir et 128 de celui de Riek Machar. Le ministre soudanais des Affaires étrangères a également annoncé qu'une commission indépendante se chargerait de décider du nombre de provinces du Soudan du Sud. Il précise aussi que l'accord définitif doit être signé le 5 août 2018.
En Ouganda, le premier ministre indien Narendra Modi a annoncé à Kampala que son pays envisage d'ouvrir 18 nouvelles ambassades en Afrique. Raissa Gironde.
Le premier ministre indien a fait l'annonce lors d'un discours au Parlement ougandais. L'Inde va ouvrir 18 ambassades en Afrique. Des ouvertures qui se feront dans les 3 ans à venir, selon un responsable indien. Pas de précision sur les pays concernés. Narendra Modi a également annoncé le don d'un dispositif de soins pour le cancer et des prêts pour un montant de 200 millions de dollars destinés à financer des projets d'infrastructures et environnementaux en Ouganda. L'Inde est en compétition en Afrique avec la Chine, devenue un partenaire commercial majeur. L'Inde détient 29 ambassades sur le continent contre 50 pour la Chine. Le premier ministre indien a aussi rendu hommage au président ougandais Yoweri Museveni pour avoir accueilli les Asiatiques d'Ouganda qui avaient été expulsés par le despote Idi Amin Dada, lui-même évincé ensuite par Museveni. Après s'être rendu précédemment au Rwanda dans le cadre de sa tournée africaine, Narendra Modi se trouve en Afrique du Sud pour le sommet annuel des chefs d'État et de gouvernement des BRICS à Johannesburg.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Report à l'année prochaine du deuxième sommet que le président américain Donald Trump voulait pour cet automne, ici à Washington, avec son homologue russe Vladimir Poutine. La Maison-Blanche explique que ce sommet n'aura pas lieu en 2018, jugeant qu'elle devrait se dérouler une fois terminée l'enquête du procureur spécial Robert Mueller. Précision de Nicolas Pinault.
C'est John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, qui a fait cette annonce aux journalistes. Le président pense que la prochaine rencontre bilatérale avec le président Poutine devrait avoir lieu une fois que la chasse aux sorcières sur la Russie sera terminée. Nous avons donc décidé qu'elle aurait lieu l'année prochaine. Monsieur Bolton faisait référence au procureur spécial qui enquête sur une possible collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump lors de la présidentielle de 2016. De son côté, le secrétaire d'État américain a tenté de rassurer les sénateurs lors d'une audition au Congrès. Mike Pompeo a lu une déclaration sur la Crimée dans laquelle les États-Unis réaffirment solennellement leur refus de reconnaître l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie, c'était en 2014. La commission cherchait à entendre le chef de la diplomatie américaine pour mesurer la fermeté et la cohérence de la diplomatie américaine face à Moscou lors du sommet d'Helsinki.
M. Pompeo a également été interrogé sur le sommet que le président Trump a eu le 12 juin dernier à Singapour avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Il a répondu avoir eu depuis ce sommet des conversations fructueuses avec les officiels nord-coréens, tout en soulignant que les sanctions des États-Unis et des Nations Unies resteront en place tant que Pyongyang n'aura pas éliminé ses armes de destruction massive. Le secrétaire d'État américain a reconnu aussi que la Corée du Nord a continué à produire des matériaux nucléaires.
Toujours à Washington, le président Trump et le chef de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker, sont parvenus à une trêve commerciale en décidant pour le moment de n'adopter aucun nouveau tarif douanier. Ils se sont rencontrés pendant 3 heures hier à la Maison-Blanche. Ils ont également convenu de travailler ensemble pour réformer l'Organisation mondiale du commerce.
Vous écoutez VOA Afrique, fin de ce journal.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le programme de la monnaie unique de la CEDEAO connaît de grandes avancées. Déclaration à Niamey des ministres de l'économie et des finances de la CEDEAO. Le ministre nigérien a cependant indiqué que de nombreux défis restent à relever pour atteindre les objectifs de la mise en œuvre de la monnaie unique à l'horizon 2020. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a indiqué que la Chine pourrait investir près de 15 milliards de dollars dans l'économie sud-africaine. Les détails de cet investissement n'ont pas été fournis. L'Union européenne se prépare à taxer des produits américains pour 20 milliards de dollars. C'est en représailles au cas où Washington appliquerait sa menace de taxer les automobiles européennes. La commissaire au commerce a indiqué que Bruxelles va notamment viser des produits industriels, agricoles et d'autres technologies. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a rencontré ce mercredi à Washington le président américain Donald Trump pour des discussions visant à résoudre le conflit commercial entre les deux grandes puissances économiques. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, a averti que les conséquences des droits de douane brandis par les puissances économiques mondiales, qui ne sont pas encore visibles, vont faire des ravages. La plupart des partenaires commerciaux des États-Unis ont riposté en appliquant à leur tour des droits de douane.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
De l'athlétisme pour commencer, les Ivoiriennes Talou et Aouré en tête du classement de la Diamond League.
À l'issue des 11 journées disputées, Marie-Josée Talou est largement en tête du classement. La sprinteuse devant sa compatriote Muriel Aouré, deuxième. Les deux sont suivis par l'américaine Jenna Prandini et la britannique Dina Asher-Smith. La nigériane Blessing Okagbare, Iko Tegonor, prend la 10e place.
Tennis, Serena Williams se dit victime de discrimination.
Oui, l'américaine a réitéré ses critiques envers les autorités de l'antidopage en estimant être contrôlée plus souvent que d'autres joueuses. Serena Williams était arrivée à Londres pour le tournoi de Wimbledon pendant que des médias relataient sa colère après un contrôle inopiné en juin. À cette époque, l'agent chargé du contrôle a refusé de quitter le domicile floridien de la joueuse. Un rapport a également affirmé que sur le seul mois de juin 2018, Williams a été contrôlée 5 fois. Là où ses compatriotes n'auraient pas été testés plus d'une fois.
Marseille jouera son prochain match européen à huis clos.
C'est une décision de la commission de discipline de l'UEFA. L'Olympique de Marseille a aussi écopé d'une exclusion d'un an de toute compétition européenne en cas de récidive dans les 2 prochaines années. L'OM a ainsi été sanctionné pour les incidents ayant eu lieu en marge des matchs contre Leipzig en quart de finale à domicile, Salzbourg en demi-finale ainsi que lors de la finale perdue contre l'Atlético Madrid en mai dernier au Groupama Stadium de Lyon. L'UEFA a retenu les charges de perturbation dans le public, actes de vandalisme, allumage de fumigène, jet d'objets et coups d'envoi retardés.
Retour de Leonardo à l'AC Milan comme directeur sportif.
Et oui, l'ex-directeur sportif du Paris Saint-Germain n'exerçait plus aucune fonction depuis décembre 2017, après avoir été quelques semaines entraîneur du club turc d'Antalyaspor. Leonardo, 48 ans, a été joueur à l'AC Milan de 1998 à 2001, puis de 2002 à 2003, avant d'y exercer les fonctions de directeur technique puis d'entraîneur lors de la saison 2009-2010. Racheté par le fonds américain Elliott, l'AC Milan a entrepris de réorganiser sa direction avec le départ du PDG Marco Fassone et l'arrivée de Paolo Scaroni au poste de président exécutif.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ouverture mercredi en République démocratique du Congo des bureaux de réception et de traitement des candidatures à la présidentielle et aux législatives nationales. Une étape cruciale du processus électoral qui verra notamment les prétendants à la présidence de la République déposer leur candidature à l'élection qui doit se tenir le 23 décembre et qui fixera l'opinion sur l'avenir politique du président Joseph Kabila, qui ne s'est toujours pas prononcé clairement sur la tentative de briguer un troisième mandat que lui attribue l'opposition. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Cette période ira du 25 juillet au 8 août 2018. Jean-Baptiste Itipo est le directeur de communication de la CENI.
Il s'agit, conformément au calendrier électoral, de l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures pour l'élection présidentielle et la députation nationale. Cette opération s'effectue aussi bien à Kinshasa qu'en province. Mais je précise, les candidatures pour l'élection présidentielle ne sont déposées qu'au bureau de réception et traitement des candidatures qui est ouvert, n'est-ce pas, au siège de la CENI. Par contre, pour la députation nationale, c'est dans les différentes circonscriptions.
La plupart de partis politiques se disent prêts à se lancer dans l'opération. Willy Bakonga, secrétaire permanent adjoint du PPRD, souligne que son parti et sa plateforme politique seront prêts dans le délai.
Le PPRD est toujours prêt pour aller aux élections. Il y a une commission que le président national, son excellence Joseph Kabila Kabangé, a mis en place et qui est en train de valider province par province toutes les candidatures. Nous voulons gagner. Je ne vois pas quel est le parti politique qui travaille comme le PPRD.
À l'UDPS Tshisekedi, le secrétaire général Jean-Marc Kabound affirme que le parti déposera ses listes dans les délais tout en maintenant la pression pour que la machine à voter soit définitivement retirée du processus électoral.
Nous signons et persistons que la machine à voter présente un grand danger pour le processus électoral. Mais quant à la question de savoir si nous sommes prêts avec nos candidatures, mais l'UDPS est prête.
La plateforme électorale Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi apprête également ses listes. Mais Christophe Lutundula, l'un de ses hauts cadres, précise que l'opposition maintient son combat pour empêcher des élections truquées en RDC.
Je peux vous certifier que nous sommes prêts et que dans les heures qui suivent, à travers le pays, les quatre plateformes d'ensemble pour le changement vont déposer les listes de leurs candidats aux prochaines élections législatives nationales. Et quant à la présidentielle, il n'est un secret pour personne que Moïse Katumbi est notre candidat et il arrive incessamment à RDC pour déposer son dossier de candidature à la présidence de la République. L'opposition se battra et toutes ses forces et avec elle, le peuple congolais, nous empêcherons toute élection frauduleuse.
Et dans les rues de Kinshasa, les avis sont partagés quant à la tenue effective des élections le 23 décembre prochain.
Par rapport aux différentes étapes que la CENI avait prévues et commencé à réaliser, je crois bien que un grand nombre de personnes ont maintenant confiance qu'il aura bien l'élection le 23 décembre.
Franchement, je ne crois vraiment pas que ça aura lieu les élections. D'ailleurs, moi, ça me tape sur les nerfs. En tout cas, j'admettrai que je suis pessimiste.
Tout dépend de Kabila. S'il a la bonne foi, s'il a la bonne volonté, les élections auront bel bien lieu.
Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Coup de projecteur sur les relations Chine-Afrique. Le président Xi Jinping s'est rendu au Sénégal, au Rwanda et enfin en Afrique du Sud pour participer au sommet des BRICS. Que pensez-vous de l'influence de la Chine sur le continent? Quels sont les intérêts de Beijing? La Chine-Afrique, néocolonialisme ou coopération gagnant-gagnant? Comment voyez-vous l'avenir de cette relation? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Cameroun, une épidémie de choléra a fait 9 morts selon des statistiques du ministère de la Santé publique. 3 régions du pays sont concernées par cette épidémie, le nord, le littoral et le centre. y compris Yaoundé, la capitale. Au total, 109 cas suspects ou confirmés de choléra ont été enregistrés dans les centres hospitaliers du pays. De Yaoundé à Yaoundé, les populations cèdent peu à peu à la panique et les autorités sanitaires du Cameroun sont pour leur part en état d'alerte, nous dit notre correspondant sur place, Emmanuel Jules Ntap.
L'hôpital du district de la Cité Verte, l'un des quartiers de Yaoundé, a reçu 5 cas suspects de choléra. 2 ont été confirmés par le personnel médical. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, y a prescrit une prise en charge méticuleuse des malades et éviter toute nouvelle contamination.
C'est très important que la terre soit rapide et que le circuit soit isolé du reste du circuit de l'hôpital pour éviter la contagion. Et c'est aussi important de savoir que tous les cas qui sont autour du malade doivent être traités, à savoir recevoir la chimioprophylaxie.
Dans 5 autres centres hospitaliers de la capitale du Cameroun, 15 patients suspects sont actuellement en isolement. Des statistiques qui inquiètent certains habitants de Yaoundé, une ville réputée insalubre.
Moi, je sors le matin, je laisse mon fils à la maison, donc j'ai peur qu'à mon absence, il peut faire un bobo derrière moi. Parce que dans les quartiers, surtout dans mon quartier à Damas, il y a des poubelles partout.
C'est pas évident avec la conjoncture au pays de pouvoir s'offrir un plat dans un endroit bien soigné. Je vais m'acheter un antibactérien, interdire aux enfants de consommer les boissons faites qu'on vend dans la rue.
Face à la multiplication des cas de choléra, le ministère de la Santé publique a mis tous les hôpitaux en état d'alerte. Docteur Alain Bala Etundi, directeur de la maladie au ministère de la Santé publique.
Les examens sont gratuits. Le plus important, c'est que dans votre domicile, autour de vous, on doit venir stériliser, mener les mesures de désinfection. Après la sortie, le malade est guéri. Maintenant, il faut s'assurer que le malade va diffuser les messages, va continuer à sensibiliser autour de lui et surtout va garder les bonnes habitudes.
La surveillance des nouveaux cas de choléra dans les 3 régions en épidémie s'est accrue depuis quelques jours. Les consignes sont désormais claires dans les hôpitaux de Yaoundé en cas de diarrhée. Docteur Charlotte Moussi, déléguée régionale de la santé pour la région du centre.
Des cas de diarrhée avec ou sans vomissement qui arrivent dans une formation sanitaire est considéré comme un cas suspect. Ce cas suspect-là suit un circuit tout à fait particulier où nous allons renforcer les mesures d'hygiène pour la décontamination. Puis il y a une salle d'isolement où ils vont donc recevoir les soins par rapport à leur tableau de déshydratation.
L'épidémie de choléra actuelle au Cameroun a été déclarée dans la région du Nord où elle a déjà fait 8 morts sur 58 cas suspects, selon le ministère camerounais de la Santé publique. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Guinée, bras de fer entre le gouvernement et les syndicats qui ont enclenché une grève générale pour protester contre la hausse de 25% des prix du carburant. Une nouvelle marche de l'Union des forces sociales de la Guinée est prévue à Conakry après celle qui a été empêchée lundi par les forces de sécurité. Le Premier ministre a, lui, dénoncé ce qu'il considère comme une prise en otage du pays par les syndicats. Irénée Herman Ungbo a joint à Conakry Dora Aboubakar Koïta des forces sociales de la Guinée.
Nous avons déclenché un certain nombre d'actions et de démarches afin de ramener l'État à reconsidérer sa décision et à ramener le prix du carburant à 8000 francs à la pompe. Et nous ne sommes pas prêts à abandonner ce combat et nous sommes convaincus que les citoyens, dans une grande majorité, adhèrent à ce combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui.
Syndicats et forces sociales réclament tous la réduction du prix du carburant, vous venez de le dire, y compris la cherté de la vie. Pourquoi ne menez-vous pas une action commune et vous évoluez en rang dispersé?
Non, nous menons les mêmes actions au même moment. Ça veut dire tout simplement, les syndicats mènent les actions en termes de grève. Nous, en tant que société civile, on ne peut pas déclencher des grèves. Nous ne défendons pas les travailleurs. Ce sont les syndicats qui peuvent déclencher des grèves. Raison pour laquelle, quand les syndicats déclenchent les grèves, nous, de notre côté, en tant que société civile, en tant qu'acteurs sociaux, nous appelons les citoyens, les travailleurs et tous les citoyens à observer le mot d'ordre des grèves.
En plus de la diminution du prix, vous dénoncez aussi la corruption et la mauvaise gouvernance. C'est bien cela?
Oui, oui. oui, bien sûr. Mais nous, nous pensons tout simplement que les maux qui gangrènent aujourd'hui notre système de gouvernance, nous pensons que l'augmentation du prix du carburant à 25% ne peut être justifiée que par la corruption, ne peut être justifiée que par la mauvaise gouvernance. Et tant d'autres qui sont des maux aujourd'hui qui caractérisent le fonctionnement de notre État.
Monsieur Koïta, qu'allez-vous faire si le gouvernement ne réagissait pas à vos revendications?
Nous allons passer par tous les moyens légaux afin que l'État reconsidère sa décision. Une fois encore, les marches et les manifestations, mais aussi les journées villemontes. En dehors de ça, nous sommes en train de réfléchir une fois encore sur de nouvelles actions innovantes afin de ramener l'État à reconsidérer sa position.
Une prochaine action en vue?
Oui, bien sûr, oui. Et d'ailleurs, ça commence déjà demain. Demain, nous avons encore une marche programmée. Parce que depuis le 16 de ce mois, nous avons envoyé deux courriers d'information pour deux marches différentes. La première a été empêchée illégalement le lundi passé par les services de sécurité. Mais nous avons une deuxième marche programmée demain, qui a pour itinéraire d'ailleurs l'esplanade des stades du 28 septembre jusqu'à la primature.
Et qu'est-ce qui vous fait croire que cette seconde marche ne sera-t-elle pas aussi empêchée?
Si les autorités pensent qu'ils peuvent donner des ordres aux services de sécurité pour nous empêcher de manifester, pour nous arrêter arbitrairement, mais aussi de façon ciblée, nous pensons une fois encore que l'opinion nationale et internationale saura apprécier ce qui va se passer sur le terrain.
Joint à Conakry, le syndicaliste guinéen Dora Aboubakar Koïta.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Les élections présidentielles et législatives du 30 juillet au Zimbabwe, les premières depuis la chute de Robert Mugabe en novembre, sont sur le point d'être frauduleuses, a dénoncé ce mercredi le chef de l'opposition Nelson Chamisa, qui n'entend pas néanmoins les boycotter. Pour une analyse, Nicolas Pino a joint à Harare John Stewart, ancien activiste des droits de l'homme.
Bien qu'il y ait 23 candidats pour la présidence, il y a réellement deux partis qui ont réellement du support, donc le ZANU-PF et l'alliance du MDC, qui regroupe, je crois, 8 éléments qui se sont regroupés ensemble pour se présenter contre le ZANU-PF. À ce moment, en fait, la situation est assez calme, hein, c'est-à-dire que il y a des éléments difficiles. Les médias ne sont pas tout à fait ouverts, surtout le média de l'État qui est contrôlé par les ZANU-PF. La commission électorale du pays doit être tout à fait indépendante, mais a fait des décisions et des actions qui semblent qu'il y a au moins quelques éléments de ces actions qui ont préféré Mnangagwa. Donc on a quelques tensions là-dessus.
Pour certains, il ne fait aucun doute que Mnangagwa sera réélu, étant donné bien évidemment qu'il contrôle tous les leviers du pouvoir. Qu'en pensez-vous?
La résistance des voteurs a été faite avec des identités biométriques, ce qui a fait que c'est beaucoup mieux que dans les dernières élections, dans les années passées. Mais il y a des problèmes, par exemple, le vote pour l'élection du président doit être une liste alphabétique, un seul colon des noms, donc 23 noms, avec le nom du parti, l'emblème du parti et le photo du candidat. Mais la commission électorale a décidé de présenter un page avec deux colonnes, 14 sur un colonne et 9 sur l'autre, qui fait que Mnangagwa est au sommet de la deuxième colonne et non pas le 15e dans le seul colon. Donc on a une situation où l'opposition pense que l'électorat a favorisé Mnangagwa.
Quel est l'état du Zimbabwe depuis que Mnangagwa a pris le pouvoir après la chute de Robert Mugabe?
On a eu une situation plus ouverte. La majorité des électeurs ont moins que 40 ans. Et donc, une question sur les générations, c'est très important. On verra si ça va faire quelques pressions sur les résultats de cette élection. La situation a été beaucoup plus ouverte ces derniers mois que dans les élections des dernières décennies parce que Mnangagwa a retiré en fait la police et d'autres éléments de la structure de sécurité du pays pour permettre les oppositions de se présenter dans les campagnes un peu dans le pays.
L'activiste des droits de l'homme, l'ancien activiste des droits de l'homme, John Stewart, joint à Harare. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Vous étiez en compagnie de Jimmy Cook, Georges Léonard Sagnou, Jean-Roger Bion et Idrissa Sédou Diop.